du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour le retour du coq à l'âne. Nouvelle version du coq à l'âne que vous retrouverez désormais une fois par mois en podcast sur alpe1.com. Alors, pour cette première, nous sommes à Briançon. Bonjour Philippe Stockley.
Bonjour,
en podcast. Alors, c'est vacances hein, toute l'année, hein, donc ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé.
Pareil pour Jean-Paul Grelier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour tout le monde.
En vacances toute l'année, Jean-Paul.
Oui, depuis quelques années.
Voilà. Heureusement, nous avons quand même deux invités qui bossent, eux, Freddy Voiron, qu'on ne présente plus. Salut Freddy.
Salut.
Il a son rond de serviette à la table du coq à l'âne. Et puis Florian Vigne. Bonjour Florian.
Bonjour.
Là, c'est une première, Florian Vigne, patron des éditions du Fresnel, dont on parle régulièrement sur Alpe 1. Alors, comme d'habitude, on ne change pas, vous le savez, une recette qui fonctionne avec l'édito de Philippe Stockley.
Madge, she's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Madge, she's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Madge, she's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine.
Her Majesty, Paul McCartney, la délicatesse et la classe réunies pour un hommage à la reine d'Angleterre. Allez, au plaisir.
Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine.
Bon, Thierry, vu que le coq à l'âne devient mensuel et en podcast à volonté, sur le site d'Alpe 1, je me dus, pas c'est simple, j'espère de je me dois, d'écrire un édito plus poussé qu'à l'habitude. Poussé, non, ça ne veut pas dire bien arrosé, ça veut dire plus travaillé, surtout plus longtemps travaillé, et bien évidemment, plus long. Avant de commencer, je voulais quand même vous expliquer comment je me fais une opinion. N'ayant pas la culture suffisante pour avoir d'instinct un avis sur les principaux sujets de l'actualité, et n'ayant pas non plus le culot nécessaire pour faire croire que j'en ai un, je me forge donc une opinion en écoutant les autres. Il y a un moyen facile aujourd'hui de trouver les bonnes sources, de contourner les moyens d'information un peu trop classiques ou même un peu trop orientés, c'est Twitter. Mais bon, attention, il faut quand même faire le ménage dans ce réseau. D'abord, il faut virer tous les journaux et autres chaînes d'information. Accepté, elle peut. Hein.
Je te remercie.
Je te jure que c'est vrai, Thierry. Ensuite, vous vous débarrassez des personnages politiques sans intérêt, et même de ceux dont vous pensiez qu'ils en avaient. Puis vous déambulez au hasard des tweets et autres retweets, et au milieu de la jungle, vous découvrez des gens intéressants. Après des mois de pratique, je me suis fait ma petite équipe, et j'avoue qu'avec eux, j'améliore mon analyse, je remarque des choses qui m'auraient échappé avant, et finalement, je commence à avoir des opinions instinctives. Alors merci Philippe Bridet, Sophia Aram, François Morel, Claude Veil, Jean Garrigue, Dominique Régnier, Prisca Thévenot, Eric Nolot, merci. Alors commençons avec toute cette aide avec l'Ukraine. Avant d'en parler avec Freddy tout à l'heure et Florian, quelques brèves. Je ne pouvais pas ne pas évoquer le curieux discours de Ségolène Royal. Royal. J'ai presque envie de dire qu'elle ne mérite pas son nom, celle-là. Son discours sur l'Ukraine est surréaliste. Jean-Michel Apathy affirme qu'elle est en relation permanente avec l'ambassade de Russie, c'est pour vous dire. Elle doit savoir des choses que personne ne sait, j'en suis sûr. Elle doit être au courant de l'invasion programmée de tous les pays d'Europe par la Russie en 2023. Elle se voit déjà secrétaire du parti au bureau politique de Poitiers, avec Dacha au bord de la Vienne. Autre commentaire plus rassurant, celui-là, celui d'un ex de l'insensé du Poitou. Je ne pensais jamais le citer, celui-là, l'inattendu François Hollande, qui dit sur le sujet « Si les sanctions ne faisaient pas de mal à la Russie, Poutine ne menacerait pas de plus fournir de gaz. » Ouf, on en viendrait presque à regretter la gauche façon Hollande et du coup peut-être la droite façon Sarkozy. Je citais tout à l'heure le troublant chroniqueur du Sud-Ouest, Jean-Michel Apathy, celui qui parle en ce moment des traîtres à la France. Je cite les idiots inutiles de Poutine, Royal, Bardella, Dupont-Aignan, Coquelin qui disent « Il faut lever les sanctions contre la Russie parce qu'elles appauvrissent les Français ». Des politiciens sans envergure qui doutent du soutien à l'Ukraine et des sanctions contre la Russie. Ils trahissent les valeurs de la France. Et boum. Je terminerai avec une dernière tweet source au sujet du comportement de certains politiques français des deux extrêmes, enfin surtout d'une extrême. Ça vient de Pierre Servant, un historien, qui dit « Il y a une petite musique pro-poutinienne en France, la petite musique pétainiste de 40 qui disait « On va monnayer avec les nazis et passer entre les gouttes ». Et je re-terminerai avec une dame, une sacrée dame. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, une femme tout en détermination, en courage et aussi en remballage de petits ignares des insoumis français, la dénommée Manon Aubry s'est offert remettre à sa petite place au Parlement européen. Il ne faut pas laisser tous ces clowns inutiles masquer les personnalités comme celle de cette dame, Ursula von Leyen. Parlons maintenant des éléments de langage des insoumis. Autre sujet qui vaut la peine. Et en croire les insoumis à l'intelligence, ils doivent recevoir chaque matin au réveil les consignes pour répondre aux journalistes, peut-être aussi à leurs voisins de palier. On découvre depuis peu les mots interdits, le discours tronqué. Les insoumis à l'honnêteté en sont devenus les spécialistes. Et ceci sans se cacher, sans se justifier. Tranquille, la tranquillité de la suffisance. Des exemples ? D'abord l'Ukraine encore. Avez-vous entendu un insoumis à la tolérance parler de l'invasion russe en Ukraine ?
Non.
Dans leur secte à ciel ouvert, on parle de conflit entre l'Ukraine et la Russie. On a remarqué aussi le discours étrange par rapport à l'islamisme. Un mot qui n'existe pas dans les fiches reçues tous les matins par les députés sans cravate. On parle d'un peu discret racolage du vote musulman. Mais je n'irai pas jusque-là. Eu égard à mon inculture et au fait que, étant un très simple citoyen, je ne connais que 10 à 15% de la vérité politique. Mais quand même. Et puis, peut-être pire que ces éléments de mensonge, il y a les non-réactions. Rien quand des policiers sont gravement blessés lors d'un refus d'obtempérer. On préfère beugler la police tue avec Omar Sy et Camélia Jordana. Pas un seul mot du grand patron, vous savez, monsieur La République, sur l'agression de Salman Rushdie. À force de sélectionner leurs aboiements, ces gens perdent jour après jour le peu de crédibilité qu'ils ont pu avoir pendant le grand théâtre de la campagne présidentielle. De petits acteurs intermittents de l'intelligence. Autre spécialité des insoumis, avant que tu aies fini de parler, ils te coupent la parole, ces gens-là, et te critiquent sur la moitié de ta phrase. Exemple, Fabien Roussel, l'inconstant président du PCF, qui, lors de sa fête et celle de l'humanité, déclarait au milieu d'autres phrases « du travail, pas que des allocations ». Et c'était parti pour grand carnaval, une élue insoumise déclarant « heureusement que mes parents ont pu avoir des allocations, mais patati et patata ». Sauf que les parents de l'insoumise en question, elle oubliait de le dire, ses parents, eux, ils travaillaient. Roussel, lui, ne faisait allusion qu'aux revenus basés uniquement sur les allocations. Ils n'ont pas écouté la fin de la phrase, où Roussel proposait juste que le travail puisse permettre de vivre dignement, que le travail rende digne un citoyen. En gros, le problème des insoumis, c'est que si les assistés trouvent du boulot, c'est une catastrophe pour eux. Aujourd'hui, on balance, on n'assume rien, ni ses critiques, ni ses insultes, on balance et on s'en fout. Il faudra quand même qu'un jour la raison l'emporte, qu'on reconnaisse les vrais gens, et que les faux, ceux qui privilégient le non-respect de l'autre, disparaissent et laissent la place à ceux qui ont le souci d'autrui. Et nous avons déjà deux avec nous aujourd'hui.
Ben voilà, donc ça, ben oui, oui, ben oui, ça, on sent qu'il y avait il y a quelques semaines de travail hein, dessus, commencé début septembre pour arriver aujourd'hui avec les premières questions que tu vas pouvoir tout de suite poser à Freddy et Florian.
Oui, Freddy, il y a quelques mois, tu étais venu au Coq-à-l'âne et tu nous disais que tout ce qui avait été fait pour aider l'Ukraine et pour sanctionner la Russie étaient des mesurettes. Je me souviens bien de ce terme. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé tout ça ?
Bon, je pense que ça commence à changer. Oui, effectivement, on voit dans l'actualité les milliards que, enfin, j'allais dire que donnent, les milliards que prêtent les États-Unis, les milliards que prête l'Europe, les armes qui partent là-bas. Oui, on peut dire que ça a changé aujourd'hui.
Les mesurettes sont plus les mesurettes. Ouais, hein. Ouais. Et avec toute l'approche humaine que vous vivez tous les jours. Quel est votre sentiment sur le discours des uns et des autres, des politiques, etc., Florian ?
On voit quand même que le dernier discours qu'a fait Poutine a interpellé quand même toute la classe, les journalistes, tout ça. On voit que petit à petit, ça commence à prendre effet sur l'action de la Russie en Ukraine.
Mais voilà, entre ce que vous vivez, vous, humainement, c'est-à-dire les dons, les voyages que vous préparez, est-ce qu'il y a une réalité là, tout ça ? Vous sentez la jonction entre ça ou vous avez l'impression de faire dans votre coin ce qu'il faut faire et laisser les autres parler ?
Nous, on travaille dans notre coin, mais c'est vrai qu'après, on voit qu'on a des portes qui sont fermées, encore actuellement, et que les dons des particuliers, les préoccupations des Français sont ailleurs actuellement, parce qu'on voit quand même qu'il y a moins d'effervescence autour de la collecte qu'on a lancée il y a 15 jours, etc., que ce qu'on a eu au printemps, par exemple.
Ouais. Tu dis des portes fermées, Florian, tu pourrais un peu nous dire un peu plus sur ces portes fermées ? Vas-y, hein, c'est le moment de déballer. T'as bien vu l'autre là.
Ben, disons que par exemple, là actuellement, on est en contact dans l'est de l'Ukraine, à la frontière avec le Donbass, avec un hôpital. On va pas donner le nom de la ville pour par mesure de
sécurité.
De l'arrivée de notre convoi actuellement, mais on a des poids lourds qui vont partir là dans les prochaines semaines. C'est en train de se finaliser pour partir dans cet hôpital et dans la commune concernée. C'est vrai qu'on a recherché plusieurs fois du matériel médical sur des centres dans le Briançonnais. Et il y en a quelques-uns qui, pour l'instant, font la sourde oreille. Et alors qu'on sait qu'ils peuvent avoir des médicaments avec des dates courtes qu'on pourrait récupérer pour envoyer là-bas, du matériel qu'ils ne peuvent plus utiliser ou qui est obsolète pour eux, mais qui par contre en Ukraine, dans des villes qui ont été bombardées par le passé, qui ont été libérées, et là, la ville concernée, on a tous les blessés civils et militaires qui sont accueillis, la ville est bondée de réfugiés parce que les Ukrainiens ne veulent pas quitter l'Ukraine et surtout se rester proche de chez eux. C'est du matériel qui pourrait leur servir. Et quand on a porte close, alors que bon, nous on a une activité professionnelle, mais on a aussi cette activité bénévole humanitaire pour aider le peuple ukrainien, c'est vrai que c'est un peu décourageant des fois.
Donc oui, vous êtes... Oui, vas-y.
Non, je pensais, parce que je suis passé hier près de l'hôpital, je pense qu'ils font des gros travaux là au niveau des urgences, donc ils doivent avoir plein de matériel. Vous allez remplir plusieurs camions grâce à l'hôpital de Briançon, je pense, non ?
On a pu récupérer un petit peu de matériel sur les urgences qui ne se resservaient pas sur les futures urgences.
Oui.
Donc on a pu récupérer ce qui était matériel de lavage, lavabo, évier, tout ça, plus les... J'ai pas le terme technique, mais pour visionner les radio. Mais après, c'est vrai que ce serait bien si on pouvait avoir un peu plus de,
encore plus,
de soutien,
oui.
Et
oui.
Encore plus de relations étroites avec l'hôpital de Briançon, effectivement.
D'accord. Donc la collecte va se terminer là dans quelques jours, je suppose. C'est quoi alors le départ? C'est quand? C'est prévu?
Normalement, on reçoit encore 80 palettes la semaine prochaine, normalement. Et on a un 38 tonnes qui part semaine 41, je crois, hein, c'est ça. Et donc là, on mettra tout ce qu'on peut dans ce camion. Et après, on ne pourra pas tout mettre. Après, on aura un deuxième camion qui partira courant octobre ou novembre, je pense.
D'accord. Et pour le prochain voyage, vous êtes de voyage tous les deux ?
Non. Normalement, non. Après, on ne trouve pas de transporteur pour aller directement en Ukraine. Donc on va dans une ville, sur une ville polonaise qui s'appelle Chelm. Et là, on doit transvaser les 38 tonnes dans un autre camion ukrainien. Donc là, pour l'instant, on essaie de trouver une plateforme là-bas qui puisse nous le faire. Et si on ne trouve pas, ben, on ira une dizaine de personnes pour faire le transfert.
D'accord. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Vraiment, qu'est-ce qui vous manque?
Ben, à nous, rien, mais aux Ukrainiens, un peu tout.
Non, mais qu'est-ce qui vous manque pour nous mettre dans le camion?
On a des dons, il y a des choses qu'on peut acheter, de la nourriture, on peut acheter. Ce qui leur manque vraiment, là, sur cet hôpital-là, en fait, c'est un hôpital qui est en dessous de Kharkiv, qui est à la limite, à la frontière des bombardements. Donc comme disait Flo, il récupère tous les blessés civils et militaires. Donc là, c'est tout ce qui est médical de guerre, en fait. Les antidouleurs, les pansements, le matériel chirurgical. Là, les médecins, ils opèrent sur des tables en bois comme on est dessus. Ils n'ont plus de gants. On en voit, je ne sais pas, on a combien de dizaines de milliers de gants qui partent là-bas, mais on en aurait besoin encore plus. Ils n'ont pas de charlotte, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de...
Voilà, c'est, ouais, du, vraiment ça, du matériel essentiel, quoi. Ouais,
essentiel pour les soins médicaux. Mmh, tout à fait.
Mmh. Très bien. On va évidemment continuer de parler de l'Ukraine. On va parler de la situation qui ne s'arrange pas, et certains politiques, Philippe en parlait tout à l'heure, qui ont trouvé donc la solution aux répercussions qu'a provoqué cette guerre, c'est-à-dire tout simplement stopper les sanctions contre la Russie et Poutine, et donc en gros laisser faire, quoi. Hein, mais c'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à soutenir les Ukrainiens? Non, mais c'est vrai. Franchement, tenez, par exemple, mais vraiment au hasard, Marine Le Pen.
L'économie russe n'est pas à genoux, la Russie n'est pas en cessation de paiement, ni rien de tout cela. La réalité, c'est qu'exactement comme les sanctions qui ont été décidées à l'époque de la Crimée, eh bien, nous sommes beaucoup plus victimes de ces sanctions que ne l'est la Russie.
Alors, sanctions inutiles ou utiles, selon vous?
D'abord, c'est affligeant de parler comme ça. Enfin, moi, on devrait la mettre, je ne sais pas, passer ça toute la journée à tout le monde, mais le tissu de conneries qu'elle raconte.
C'est marrant.
Et toujours, et puis en plus, on a l'impression, comme je le disais, de Madame Royal, qu'elle sait des choses que personne ne sait.
Oui, oui, non, et puis ça fait penser, mais ses arrière-grands-parents, 40, ils étaient où, là ? Ouais. D'accord.
Okay. Paddy, un mot sur ces sanctions ?
Bah, elle défend un peu son banquier aussi, je crois qu'elle lui doit encore quelques millions. Hein.
Oui,
voilà, ça c'est fait. Dans les sorties contre les sanctions vers la Russie, il y en a une que j'ai remarquée particulièrement, et d'ailleurs, je pense que Philippe aussi, puisqu'il en a parlé, Ségolène Royal. La question qu'on peut se poser, c'est que s'est-il passé dans la tête de Ségolène Royal pour qu'elle se fasse la porte-voix en quelque sorte de la propagande de Poutine et qu'elle confonde à ce point bourreau et victime. On l'écoute.
Oui, mais tout le monde le sait, qu'il y a une propagande de guerre par la peur d'ailleurs. Et ne serait-ce que le premier événement qui a été dit, la maternité bombardée, quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens, et c'est là que le processus de paix s'est interrompu. Il a utilisé ça, il a dit « j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit « vengez-moi », etc. » Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus.
Et voilà, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus, mais on ne les a pas eus. Alors ?
Ouais, mais ça, c'était déjà il y a quelques temps, toutes ces bêtises-là.
Ah bah oui, bien sûr.
Et on continue à l'inviter sur les plateaux.
Elle revient régulièrement, ça c'était ça début septembre.
Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ?
Ah bah, on essaye à raconter des énormités pour pouvoir essayer à faire le buzz et continuer à occuper la place.
Mais même si 90% des gens vous prennent pour une cinglée, quoi, parce que c'est son cas,
oui,
madame.
Quand tu dis bêtises, c'est avec un grand C au départ. Hein, ouais.
Oui. Alors, je reviens sur les traîtres dont tu parlais tout à l'heure.
Enfin, c'est pas moi, c'est Jean-Michel Abatti, oui.
Absolument. Eh bien, je vous propose d'écouter ce passage. C'est quand même très intéressant.
Il est stupide de dire que parce que la Russie a de l'argent, cela ne la pénalise pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire de son argent ? J'ai entendu ce matin que cela servait directement l'effort de guerre. Non, 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 parce que des technologies dont sont privés les Russes ne leur permettent pas de transformer l'argent en chars, en canons. C'est beaucoup plus complexe que ça. Quelle est la souffrance du peuple russe ? Qu'est-ce qui manque dans les magasins ? Comment la vie quotidienne des Russes est-elle affectée ? On n'en sait rien parce que la Russie, c'est opaque, pour ceux qui ne le sauraient pas. La Russie, ce n'est pas transparent. Donc, c'est très hâtif de dire ils ont des sous et donc les sanctions ne sont pas efficaces. C'est faux. La présence de cash, à part continuer à engraisser les oligarques, n'a pas beaucoup de sens. Mais ça fait partie de la propagande russe. Où est la traîtrise à la France ? Quelle est la grandeur de la France dans le monde ? C'est bien son attachement aux valeurs de la démocratie. En 1830, un roi, Charles X, prend un décret qui supprime la liberté de la presse et le peuple se révolte et Charles X s'en va. C'est une révolution qui a un retentissement incroyable dans le monde. Que des gens puissent se révolter pour pouvoir avoir une presse libre. 1830-1914, des jeunes gens de 50 nationalités, volontairement, indépendamment de ce que font leur pays, viennent s'associer à l'armée française. Pourquoi ? Parce que la France représente la démocratie et la Prusse, avec laquelle nous sommes en guerre en 1914, l'Allemagne, la Prusse, c'est le pouvoir autoritaire. La France, c'est ça, Dupont-Aignan gaulliste. Mais enfin, Charles de Gaulle n'aurait jamais été à Londres si Churchill avait privilégié les intérêts matériels du peuple anglais. Parce que en juin 40, Hitler faisait une offre de paix aux Britanniques que la logique, la défense des Britanniques aurait dû conduire à accepter. Et il n'y a que l'attachement aux valeurs qui a fait dire à Churchill « jamais ». Et donc De Gaulle va à Londres pour ça. Parce qu'il est certain, il en a la conviction, ce que l'histoire a démontré, que Churchill ne cédera pas. Et tous ces gens qui veulent aujourd'hui qu'on lève les sanctions sont des traîtres à cette histoire. Un mot sur Jordan Bardella. Dimanche, il dit que la Russie est noyée de cash. Et aujourd'hui, nous apprenons effectivement que la Russie est noyée de cash. Le niveau d'information de Jordan Bardella est exceptionnel. L'ambassade russe travaille. On l'a compris avec Ségolène Royal jeudi, qui a été jusqu'à nier certains crimes de guerre, notamment à la maternité de Marioupol. L'ambassade russe travaille. Il ne faut jamais oublier que si nous ne sommes pas en guerre, il y a en France des agents du gouvernement russe. Voilà. Donc des traîtres à la France. Oui, je l'assume.
Ah, c'était quand même violent. Là, on veut carrément parler de collabos. Alors, ceux qui, aujourd'hui, seraient pour la fin des sanctions, on pourrait les qualifier de collabos, de traîtres à la France ?
Je n'irai pas jusque-là, mais de traîtres peut-être à l'histoire de la France ou à ce que je me représente de la France, ou même, sans parler de la France, de ce que je me représente maintenant de l'Europe, qui doit être unie en tant que peut-être même nation unique face à une attaque de cette ampleur de la Russie.
Le parallèle avec Churchill, avec De Gaulle est très intéressant aussi à cette époque-là.
De toute façon, on parle beaucoup d'une répétition de l'histoire. Hein, les extrêmes qui poussent en Europe, les Russes qui attaquent, ça nous rappelle des vagues souvenirs pas très beaux. Hein.
Mais vous l'entendez des fois ce discours dans vos oreilles, par rapport à ce que vous faites?
Non,
vous n'entendez
pas. Non. Si les anciens qui viennent et qui pleurent ou qui nous racontent des histoires, on a encore quelques personnes qui viennent. Hier, il y a une mamie qui est venue qui nous a raconté que son père avait été déporté, etc. Donc il y a un retentissement quand même comme ça. Sinon, les jeunes qui nous amènent des choses, eux, ils ne l'amènent pas par rapport à l'histoire. Ils l'amènent par rapport à l'histoire, mais actuelle. Ils ne l'amènent pas par rapport à une histoire qu'on a connue il y a 100 ans. Eux, ça, je sais pas, ça les concerne. Oui. Cette histoire-là,
c'est de l'aide immédiate.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et quand vous êtes en Ukraine ou en Roumanie, l'histoire de la France, le prestige, l'image de la France, vous la sentez quand vous, Français, vous là-bas, vous sentez quelque chose de spécial ou...
Non. Il y a eu même des sur les associations qui d'aide, un peu comme nous, qui sont dans d'autres pays et qui travaillent également avec la France, disent que avec la France, c'est le merdier. On a eu une association, un gars qui réceptionnait, c'était 20 000 réfugiés par jour à Berlin. Ils étaient 200 bénévoles pour réceptionner ces personnes-là. Et il y a eu une mamie qui était toute seule, il l'a envoyé, lui, il est français en habitant à Berlin, il a envoyé cette mamie toute seule à sa mère qui habite à Paris. Il m'a dit, j'ai plus d'emmerdes avec une Ukrainienne à Paris qu'en recevant 20 000 par jour à Berlin. Oui, donc le ratio...
Donc c'est compliqué.
Voilà. Et nous, avec 20 réfugiés dans le département, je ne vous dis pas ce qu'on a pris pendant quelques semaines.
Hein. Oui, on se doute. Autre déclaration, alors aux antipodes de ce qu'on a entendu depuis le début de l'émission, celle de Roselyne Bachelot qui disait « La Russie ne va pas s'arrêter à l'Ukraine, il faut bien comprendre ça, dans ses discours, Poutine est très clair, il mène une politique de conquête. Alors si pour avoir du gaz, on en est à baisser les armes, on le paiera très cher. » Voilà ce qu'elle disait. Et il y en a un même qui va plus loin. Alors ça, je pense que vous allez écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il s'appelle Raphaël Glusman. Il pense que l'avenir de l'Europe se joue à Kiev.
Il y a une leçon de courage et aussi de dignité et de calme et de gravité qui est donnée par le peuple ukrainien aujourd'hui. Et en plus, ils ont conscience, si vous voulez, qu'ils se battent pour leur liberté, mais ils se battent aussi pour la nôtre. Et même dans leurs reproches sur le manque de soutien, par exemple, ils sont en manque total aujourd'hui de munitions, sur le manque de soutien européen, eh bien, ils le font sans vitupérer, de manière très calme. Et il y en a même un volontaire qui m'a dit « Mais moi, si j'habitais à Paris, ben, je ne sais pas si je me mobiliserais pour l'Ukraine, parce que c'est loin. » Alors j'aimerais juste leur dire, il me disait, que ce n'est pas juste pour l'Ukraine qu'ils se mobilisent, c'est aussi pour eux. Nous, on paye le prix du sang pour tout le monde, en fait, les Ukrainiens. Ils nous disent tous ça, et ils en ont conscience. Et en plus, comme aujourd'hui, il y a cette perspective de rejoindre l'Union européenne qui a été offerte par les dirigeants européens. Et c'était un grand moment, un moment extrêmement important justement pour qu'il y ait encore un moral puissant dans la société ukrainienne. Eh bien, ils se sentent déjà membres, en fait. Et ils sentent défendre l'Union européenne. Et on peut le dire aujourd'hui, Kiev, c'est la capitale politique de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est là où se joue réellement l'avenir du continent européen. Et ça, il faut qu'on se le remémore, parce que oui, je sais qu'il y a d'autres choses, je sais qu'il y a d'autres problèmes, je sais qu'il y a d'autres sujets, je sais qu'on peut s'engueuler sur tout et n'importe quoi dans notre société et que ça fait du buzz et que c'est extraordinaire. Mais là, il y a des moments dans l'histoire comme ça où il faut savoir établir des priorités. Et aujourd'hui, notre priorité géopolitique, notre priorité politique pour l'avenir de notre pays, pas simplement pour l'avenir de l'Ukraine, c'est ce qui se passe sur ce front.
Oui, l'enjeu donc de l'Europe et voire du monde passe peut-être aujourd'hui par Kiev.
Oui, de toute façon, on l'a senti nous quand on a été accueillis au deuxième convoi en Ukraine dans la commune où on a été reçus. Le maire nous a dit qu'il se battait pour l'Europe.
Et oui.
Et dans la commune, donc c'est une petite ville qui fait 45-50 000 habitants, je crois. Dans la mairie, donc ça c'était au mois de mai. Hein.
C'était début mai.
Ouais, début mai, il y avait le drapeau européen dans la mairie à côté du drapeau ukrainien. Hein. C'était déjà ça. Hein.
Oui, alors que des fois on rechigne à mettre le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe.
Ah bah non, ça on n'a pas le droit. Hein. C'est interdit.
C'est interdit. Fabuleux.
Surtout qu'en général, lorsqu'on met le drapeau européen au niveau de l'Arc de Triomphe, c'est une journée ou deux, c'est pour un événement bien, bien spécifique.